Le bureau politique du FLNKS a présenté cet après-midi la délégation qui se rendra à Paris pour les discussions bilatérales, une délégation emmenée par Emmanuel Tchibaou. Pendant ce temps, les délégations loyalistes et rassemblements ont rencontré les Calédoniens qui vivent à Paris. Ils ont affirmé que le futur statut inscrira la Calédonie dans la République française. Le Sénat coutumier organise le premier forum du Livre blanc des quartiers populaires. Ce sera samedi à Nouville, un forum qui traitera de la question du droit. Dans la région Pacifique, les caprices de la météo sont de nouveau en évidence en Australie. Des pluies torrentielles et de graves incendies. Sur le territoire à Rivière-Salée, les enfants ont fêté la fin des vacances scolaires en musique. 350 jeunes ont défilé dans les rues ce matin. Et puis du sport avec un événement dès demain au golf de Deva, la Ryder Cup calédonienne qui opposera les golfeurs sudistes aux golfeurs broussards. Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans InfoSoir pour tout savoir de l'actualité en Nouvelle-Calédonie et dans la région Pacifique. Pour avancer, il faut d'abord clarifier le postulat de départ de la discussion. C'est le message du bureau politique du FLNKS à quelques jours du départ pour Paris de sa délégation qui doit participer aux discussions bilatérales avec l'État. Elisabeth Noir.
Les discussions bilatérales qui devraient débuter le 4 février à Paris avec le ministre des Outre-mer, Manuel Valls, mais à l'invitation du Premier ministre François Bayrou, qui a écrit aux différents groupes politiques calédoniens. La délégation du FLNKS partira donc dans les prochains jours et elle sera conduite par le député Emmanuel Tchibaou, président de l'Union calédonienne, qui prend le titre de chef de délégation. Il sera accompagné de 4 personnes représentant les composantes du front, Rocco Mitan et Michael Forest de l'UC, Aloysio Sacco du RDO et Omeyra Neslin de la DUS, Emmanuel Tchibaou qui a justifié la composition de cette délégation.
Ce qui a prévalu, c'était une représentativité des composantes du front et l'expérience, parce qu'on a au sein de cette délégation les signataires de l'accord de Nouméa, Rocco Mitan, on a Aloysio Sacco qui est au RDO, qui est au FLNKS, qui a suivi les discussions institutionnelles au comité des signataires pour le FLN, et puis Michael Forest pour le volet relations internationales et puis des discussions institutionnelles. Il a participé aux échanges avec l'ensemble des gouvernements successifs et puis les 2 novices, si on veut, c'est Omeyra Neslin, dynamite et puis moi pour le volet chef de mission.
La délégation part donc à Paris pour participer à des discussions bilatérales, une étape essentielle selon le bureau politique du FLNKS pour clarifier la méthode, le calendrier et le contenu envisagé par l'État.
On attend surtout de clarifier finalement le postulat de départ de la négociation dans la mesure où, en dehors du discours de politique générale et de l'invitation qui a été envoyée à l'adresse du FLNKS, il y avait nécessité d'indiquer quelle méthode, quel phasage par rapport au calendrier et puis après les contenus qui sont rattachés à la discussion sur la sortie de l'accord de Nouméa pour nous, qui s'inscrit dans une trajectoire de décolonisation, pleine souveraineté. Mais pour ce qui est de l'État, à l'heure d'aujourd'hui, c'est ça qui est le mandat de la délégation, qui est composé au terme du 44e congrès du FLNKS avec l'ensemble des composantes, là, des nationalistes.
Et après ces bilatérales à Paris, la délégation reviendra sur le territoire pour rendre compte à sa base avant d'envisager des négociations trilatérales qui se dérouleraient à Nouméa.
Les discussions pour nous trilatérales, elles sont envisagées dans la suite de ce qui va être les réponses formulées par l'État. Nous, on n'a pas conditionné de reprise à la discussion. On dit que depuis le congrès de Lanzwata, après la dernière consultation référendaire, on n'a pas participé, on s'engage dans les bilatérales. Il y en a qui ont choisi d'autres options. Aujourd'hui, le 13 mai, il nous a tous retrouvés là où on était dans les discussions, à stopper les discussions. Le point de départ de la discussion, si on doit s'engager dans les poursuites sur les trilatérales, c'est d'abord de clarifier d'où est-ce qu'on part. Et pour nous, le postulat de départ, c'est la puissance administrante, la France, qui détermine le cadre dans lequel la discussion elle est engagée pour discuter de la sortie de l'accord de Nouméa, qui est un accord de décolonisation pour nous. Donc c'est dans cette perspective-là que la suite elle sera envisagée par le front. Mais on a discuté de ça au 44e congrès. Pour permettre justement d'avancer, il faut d'abord clarifier le postulat de départ de la discussion.
Et c'est pour ces trilatérales que le FLNKS souhaite la présence à Nouméa de son président désigné, Christian Théin, qui est actuellement incarcéré en métropole. Et puis au menu également de ce déplacement à Paris, la relance économique. Des rencontres sont prévues notamment avec le ministre de l'économie.
Et puis il a aussi été question de l'Azerbaïdjan lors de cette conférence de presse.
Oui, nous avons interrogé le bureau politique du FLNKS sur ses liens avec l'Azerbaïdjan. Alors que vous le savez, le ministre des Affaires étrangères ou le ministre des Outre-mer ont dénoncé ces derniers jours l'ingérence de ce pays et ses menaces de déstabilisation. notamment après l'intervention d'un responsable du groupe d'initiative de Bakou en ouverture du congrès constitutif du Front international de décolonisation. Ça se passait au siège de l'Union calédonienne. La réponse d'Emmanuel Tchibaou.
Pour parler franchement, on n'a pas parlé de ça au congrès du FLNKS. Les appuis et soutiens du Front de Libération, ils lui appartiennent. Et donc, le fait de conférer une légitimité à un État plutôt qu'à un autre, nous, on est dans une phase de libération. On demande le soutien des États qui nous soutiennent, d'autres non. L'Azerbaïdjan en fait partie. Après, il n'y a pas de conditionnement au soutien politique pour le Front de Libération.
Et nous avons demandé au chef de la délégation FLNKS s'il n'y avait pas un peu de provocation a amené à Paris pour participer au bilatéral des élus comme Michael Forest ou Omera Nesline, alors que Manuel Valls a jugé inacceptable que certains responsables indépendantistes aient des liens avec l'Azerbaïdjan.
Je pense qu'il n'y a pas de provocation pour nous, hein, mais si on doit demander l'autorisation de la France pour choisir nos alliés, ce n'est pas notre option. Nous, on s'inscrit dans un mouvement de libération. Si on a des soutiens qui nous arrivent, on les prend. Après, on a bien conscience qu'il y a des enjeux de diplomatie internationale qui répondent des stratégies de la France avec l'Azerbaïdjan. Ça concerne la France avec l'Azerbaïdjan.
Voilà pour ce positionnement sur l'Azerbaïdjan. Et puis dans un autre domaine, il faut préciser qu'à côté de cette délégation FLNKS qui affirme représenter les différentes composantes du front, il y aura aussi à Paris une délégation unie qui participera aux discussions bilatérales avec l'État. Elle est composée de Jean-Pierre Diaoué et d'Adolphe Digoué pour le PALIKA et de Victor Totougoro pour l'UPM.
Et de leur côté, les partisans de la France rencontrent les Calédoniens de Paris à la maison de la Nouvelle-Calédonie. À quelques jours de l'ouverture des discussions bilatérales, les délégations loyalistes et rassemblements ont fait le point sur la situation politique du territoire, Elisabeth.
Le député Nicolas Metzdorf, le président du rassemblement et du gouvernement Alcide Ponga, la présidente de la province sud Sonia Bakès ou encore Virginie Rufnak et Gilles Brial ont échangé pendant plus de deux heures avec des Calédoniens présents dans les locaux de la Maison de la Nouvelle-Calédonie ou intervenant en visioconférence. À cette occasion, les responsables des loyalistes et du rassemblement ont bien sûr été interrogés sur les discussions sur l'avenir qui doivent débuter la semaine prochaine à Paris. Cette fois-ci, ils ne se fixent pas d'objectifs en termes de calendrier, mais ils réaffirment que le futur statut inscrira la Calédonie dans la République française conformément aux résultats des trois référendums. C'est ce que souligne le député Nicolas Metzdorf.
Je crois qu'on a besoin de prendre le maximum de temps justement pour essayer de trouver un accord et de revenir avec quelque chose de concret pour les Calédoniens. Je ne sais pas si on sera capable de trouver un accord en une fois à Paris, mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut qu'on revienne avec un début de réponse pour les Calédoniens. Nous, on dit en fait des choses qui sont très simples et on ne change pas de discours depuis le début. C'est-à-dire que le prochain statut de la Nouvelle-Calédonie doit se faire dans la République française conformément aux résultats des référendums. On doit revenir ensuite à l'esprit de Matignon parce qu'on a bien vu que l'accord de Nouméa avait été un échec et qu'on doit repartir sur une organisation qui se base sur les provinces. On rappelle aussi le rôle de l'État en Nouvelle-Calédonie, notamment sur les questions de sécurité. Donc on est toujours sur la même ligne, on ne dévie pas, on ne bouge pas, comme on l'a annoncé à notre électorat et aux gens qui croient en nous.
Les responsables des loyalistes et du rassemblement qui attendent également de l'État qu'il prenne position et qu'il donne sa vision pour la Nouvelle-Calédonie.
Radio Rythme Bleu, opinion.
C'est l'heure d'opinion, votre rendez-vous SMS sur Radio Rythme Bleu. On démarre avec la réponse à la question d'hier. 85% des auditeurs de RRB qui se sont exprimés par SMS pensent que la séquence de négociations qui doit s'ouvrir à Paris la semaine prochaine ne va pas permettre de faire avancer les choses. Ils ne sont que 15% à être d'un avis contraire. Notre question du jour maintenant. Selon vous, la chambre d'accusation de la Cour de cassation a-t-elle eu raison de dépayser à Paris l'information judiciaire sur les émeutes du mois de mai? Si vous pensez qu'elle a eu raison, vous tapez 1. Si vous pensez qu'elle a eu tort, vous tapez et vous envoyez votre réponse au 3146. Merci pour votre participation et rendez-vous demain pour la réponse à la question du jour. On a parlé de l'Azerbaïdjan au Sénat aussi. Il y a de nouveau été question des actions de déstabilisation de Bakou et de son ingérence en Nouvelle-Calédonie. C'est Georges Naturel qui a interpellé sur le sujet le ministre des Affaires étrangères, Elisabeth Noir.
Le sénateur calédonien en a fait demander à Jean-Noël Barrot quelles sanctions le gouvernement allait prendre à l'encontre de l'Azerbaïdjan après avoir dénoncé la dernière provocation en date de ce pays, en l'occurrence l'intervention en visioconférence d'un responsable du groupe Initiative de Bakou en ouverture du congrès constitutif du Front international de décolonisation qui se tenait la semaine dernière à Nouméa. « Nous ne nous laisserons pas faire », a répondu le ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot. Et il a rappelé les différentes mesures prises par la France depuis plusieurs mois à l'encontre de l'Azerbaïdjan.
Nous ne nous laisserons pas faire. C'est pourquoi, dès le 19 novembre, j'ai convoqué l'ambassadrice de l'Azerbaïdjan à Paris pour lui signifier notre réprobation absolue de ses agissements et demander à ses autorités qu'il les fasse cesser. C'est pourquoi, au mois de décembre, le service Viginum, qui détecte et attribue les ingérences numériques étrangères, a publié un rapport circonstancié qui démontre l'ampleur de ces manœuvres, leur caractère inauthentique, ainsi que leur échec à atteindre les objectifs qu'ils s'étaient fixés. Et c'est pourquoi, si l'intervention à laquelle vous avez fait allusion est intervenu en visioconférence, c'est précisément parce que nous avons empêché par des sanctions les autorités azéries de participer à ce forum organisé par ce groupe.
Si le responsable du groupe Initiative Bakou est intervenu en visioconférence, c'est parce qu'il a été empêché d'entrer sur le territoire, indique Jean-Noël Barrot, qui affirme la solidarité de l'État à l'égard des Calédoniens face à cette offensive de Bakou. J'ajoute, pour être précise, que de son côté, le FLNKS dément qu'il s'agisse d'une visioconférence. C'est en réalité, dit-il, une vidéo enregistrée par Abbas Abbasov, directeur exécutif du groupe Initiative de Bakou, qui a été diffusée au siège de l'Union calédonienne samedi dernier. Ça ne change pas grand-chose.
Notez maintenant que dans les rendez-vous de Radio Rythme Bleu, le magazine Transparence fait sa rentrée demain après plusieurs semaines de pause. Demain midi, donc, c'est le haut-commissaire Louis Lefranc qui sera l'invité d'Elisabeth Noir pour ce premier Transparence de l'année. Il sera essentiellement interrogé sur la situation de l'ordre public en Nouvelle-Calédonie, 8 mois après les violences insurrectionnelles. Le haut-commissaire Louis Lefranc, invité de Transparence, est donc à suivre demain à partir de midi, juste après notre édition de la mi-journée. 17h57, on marque une première pause dans ce journal avant de parler économie notamment.
Pour vous, comme pour nous, il n'y a pas de jour sans l'OPT sur Radio Rythme Bleu. Rendez-vous sur notre site www.opt.nc pour découvrir l'ensemble de nos offres. L'OPT, le monde à portée de main.
Préservez votre habitation contre les termites avec Formula 4D.
Traitement de charpente, piège préventif et barrière chimique.
Déductible de vos impôts. Info sur formula4d.com.
À vos côtés depuis 40 ans.
Pour gagner des bons d'achat de 100 000 francs, à dépenser où vous voulez, comme vous voulez, envoyez RRB au 4020. Tous les 1500 SMS, pile sur le compteur, 100 000 francs de bons d'achat sont gagnés. Il n'y a pas de liste préétablie, les gagnants décident comment se faire plaisir. Et si vous n'êtes pas à pile sur le compteur, votre SMS est enregistré automatiquement pour le jeu du million. Oui, 1 million de bons d'achat sont à gagner par tirage au sort parmi tous les SMS reçus. Alors tentez votre chance en envoyant RRB au 4020. 371 francs par SMS, règlement disponible à l'accueil de la radio. N'oubliez pas, RRB au 4020. Bonne chance.
RRB, première radio d'information. RRB, une radio d'opinion.
La suite d'Info Soir, Léo Fichou.
Et quelle est la situation réelle des différents régimes de chômage? Au-delà de leurs difficultés de financement, les chiffres traduisent une situation du marché de l'emploi qui reste extrêmement préoccupante. Nous en avons parlé ce midi dans les Jeudis de l'économie, Jean-François Baudin.
Il existe aujourd'hui 5 régimes de chômage différents, les 2 régimes historiques, chômage partiel et chômage total de droit commun. Le régime chômage partiel nickel, mis en place au moment des projets de fermeture de l'usine du Nord, et 2 régimes créés après les émeutes de mai 2024, le chômage partiel exaction et le chômage total exaction. Le régime de chômage partiel nickel est en voie d'extinction, mais les 4 autres régimes restent actifs. Le directeur du travail, Philippe Martin, a donné 2 séries de chiffres pour comprendre leur évolution.
Une série de chiffres pour octobre 2024 et puis pour décembre, sachant que pour décembre, il nous manque des données encore pour le chômage partiel exaction, puisque les entreprises ont 2 mois pour présenter leurs états de remboursement à la CAFAD. Donc c'est un chiffre évolutif. En octobre 2024, nous avions 1340 personnes en total exaction. Nous avions 5069 personnes en chômage total de droit commun. Et puis, évidemment, le gros de l'effectif, 9480 personnes en chômage partiel exaction. Donc ça, c'était pour le mois d'octobre 2024, qui est le dernier mois dont on est sûr à 100%. Pour décembre, nous avons 1413 chômeurs en chômage total exaction, 4446 chômeurs de droit commun et 3375 chômeurs partiel exaction, chiffre qui va être certainement revu à la hausse puisque nous attendons encore les états de remboursement des entreprises auprès de la CAFAD. Entre septembre et octobre, 8% de moins de personnes bénéficiant d'un dispositif de chômage qu'au mois de septembre. Donc on voit quand même une évolution à la baisse, mais une évolution qui reste quand même relativement faible. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un effet significatif de baisse aujourd'hui sur les bénéficiaires de ces différents dispositifs de chômage.
Une faible évolution à la baisse du nombre de personnes bénéficiant de l'un des régimes chômage à laquelle il faut faire attention car les chiffres pourraient de nouveau grossir avec les personnes qui risquent le licenciement économique, a expliqué Alexandre Lafleur, le président de la commission protection sociale du MEDEF.
Il faut savoir que suite au premier dispositif de chômage partiel et aux complications administratives, on va dire ça comme ça, du renouvellement en octobre, puisque ça avait pris plus d'un mois avant que le dispositif soit renouvelé, qu'il y avait des discussions sur les modalités, etc. Il y avait des entreprises qui avaient commencé dès octobre à lancer des procédures de licenciement économique. Ces procédures sont des procédures qui durent 5 mois. Et là, suite au nouveau dispositif, il faut s'attendre à, effectivement, que ce soit à nouveau le cas, vu le manque de visibilité, vu le manque de reprise, le manque d'activité. En fait, depuis octobre, on a effectivement des entreprises qui ont entamé des procédures qui vont se retrouver dans un avenir assez proche, touché par le dispositif chômage de droit commun.
Et derrière ces chiffres, il y a aussi des personnes en souffrance et leur situation difficile risque de durer, selon Tony Dupré, le vice-président de la COGETRA.
On voit bien qu'on est dans un désastre social, économique qui perdure. C'est ça qu'on voit nous aussi, surtout. Au niveau du chômage partiel, effectivement, on voit une légère baisse, mais cette baisse-là, nous, elle concerne encore des milliers de salariés. Avec une visibilité qui est nulle, parce que au niveau du financement et de la durée, l'amendement qui a été voté la semaine dernière au niveau de la commission permanente du Congrès, c'est le mois de mars, 31 mars, et en plus avec une baisse de l'indemnité de 70 à 50%. Donc nous, voilà, peu importe les chiffres, on voit que on a aujourd'hui, on aura encore donc des familles entières dans la difficulté, dans un contexte déjà social et de vie chère permanent. Donc on peut donner tous les chiffres qu'on veut, mais la réalité, elle est là.
Les extraits des jeudis de l'économie radio rythme bleu ce midi, sachant que la question du financement de ces régimes reste aussi évidemment très prégnante. Notez que les partenaires sociaux seront reçus demain matin par le membre du gouvernement en charge du travail et de l'emploi, Christopher Gigès, et par Thierry Santa, qui est lui en charge du budget et des finances. Il s'agira de faire un état des lieux de la situation des chômages partiels et de droit commun et de discuter de l'évolution de ces dispositifs.
Et notez dans l'agenda de Radio Rythme Bleu que demain, notre invité du matin sera Benoît Meunier, le président de la FCBTP, Fédération Calédonienne du Bâtiment et des Travaux Publics. L'occasion de faire avec Benoît Meunier un point sur la situation du secteur. Le Sénat coutumier organise le premier forum du Livre blanc des quartiers populaires. Ce sera samedi à Nouville. Depuis les événements de mai, l'institution mène des rencontres avec des référents des quartiers pour évoquer leurs difficultés au quotidien. Un livre blanc a ensuite été écrit et présenté en novembre dernier. Ce premier forum, qui aura donc lieu samedi, est consacré, qui traitera de la question du droit. Écoutez le sénateur coutumier Victor Gogny.
À travers ces espaces, le Sénat coutumier s'est autosaisi de ces inquiétudes, de ces problématiques. Et c'est dans cette optique qu'on a fait des auditions, de manière à peut-être pouvoir avoir des idées de solutions. Donc on aura des juristes, des avocats, et on aura également des assesseurs coutumiers. Tout le monde est invité à cet événement. Donc je pense qu'il y a des gens qui n'ont peut-être pas ces préoccupations, ces questionnements. Donc ils seront là pour aussi entendre ce qui est là autour d'eux. Et c'est important.
Le Sénat coutumier donne donc rendez-vous samedi à Nouville à partir de 9h. Le prochain forum qui sera organisé traitera quant à lui de l'économie sociale et solidaire. Le suivant traitera de la culture. Les caprices de la météo sont de nouveau en évidence en Australie avec des pluies torrentielles dans le Nord Queensland et de graves incendies de forêt dans les parcs nationaux de l'ouest du Victoria. C'est la correspondance de Jean-Pierre Zajac.
Les habitants de nombreux villages établis à proximité du parc national des Grands Pians ont été priés de partir immédiatement à l'approche de 3 incendies que les autorités ont qualifiés d'incontrôlables en raison, je cite, de leur propagation dans plusieurs directions. Allumés par la foudre, ces feux ont déjà brûlé des milliers d'hectares de végétation dans une région du parc qui avait jusqu'à présent été épargnée par les incendies qui y ont récemment détruit près de 80 000 hectares de forêt. De gros moyens ont par ailleurs été déployés afin de contenir l'incendie qui, toujours dans l'ouest du Victoria, a déjà ravagé 70 000 hectares de végétation dans le parc national de Little Desert, où le feu a progressé de 18 km en une heure au plus fort de l'alerte. Dans le nord Queensland, pendant ce temps, Cairns et sa région ont reçu 970 mm de pluie ces trois derniers jours. Conséquence de ce déluge, des inondations sont signalées, des routes sont coupées, des glissements de terrain se sont produits et les services d'urgence ont déjà procédé à des centaines d'évacuations. À Sydney, Jean-Pierre Saint-Jacques, RRB.
18h et bientôt 6 minutes, on marque une dernière pause dans ce journal. Dans quelques instants, on parlera culture, notamment avec le défilé des enfants ce matin à Rivière-Salée.
La semaine dernière, j'ai encore passé 3 jours à courir après mes factures impayées.
Attends, mais avec ce Blue, c'est automatique. Tu cliques sur relancer tes factures et paf, toutes les relances partent direct par mail à tes clients. Et si tu veux que certaines ne soient pas envoyées, tu les enlèves facilement.
Sérieux ?
Et c'est aussi simple pour gérer tes stocks, créer des devis, gérer ta caisse. Je te parle même pas des exports comptables.
Mais non ! Faut appeler qui pour une démo ?
Va sur soblue.nc, S-O-B-L-O-O. Et fais gaffe, tu pourras plus t'en passer.
Soblue.nc ? Ok, j'arrive !
Soblue, la solution locale qui révolutionne votre gestion commerciale.
En cas d'urgence, chaque seconde compte. Choisissez la confiance. Choisissez les ambulances Saint-Jacques 24h sur 24, 7 jours sur 7. Rapide, fiable, il n'y a pas de jour sans les ambulances Saint-Jacques. Votre sécurité est notre priorité. Téléphone 25 27 27.
RRB, première radio d'information.
La suite du journal, Léo Fichon.
Et c'était une journée particulièrement animée pour les habitants de Rivière-Salée. Près de 350 enfants ont défilé dans les rues au rythme de la musique pour célébrer les 50 ans de l'association qui les accueille à chaque vacances scolaires, la CAF, l'association calédonienne pour l'animation et la formation, Charlotte Coulson.
319 enfants, 126 encadrants et sans oublier les auxiliaires de vie scolaire. Cela faisait beaucoup de monde dans les rues de Rivière-Salée ce matin. Les enfants sont venus de partout, Païta, Dimbéa, Mondor et Nouméa, pour se rassembler et marcher ensemble. Le coup d'envoi de la parade était donné à 9h. Les enfants de maternelle et primaire sont partis de différents points du quartier pour se retrouver au stade Bernard-Ukéwe. 1h30 de marche et de danse en musique n'était pas suffisant pour les fatiguer.
Trop fatigant de marcher jusqu'à là-bas?
En vrai, ça va, parce qu'il y a la musique, ça nous motive.
On est en train de suivre une voiture, en train de marcher. Alors et danser, on s'amuse.
Ouais, très bien.
Vous vous amusez?
Oui, oui.
Et nous, on était en train de marcher. Marcher très loin, très loin, très loin. Et on s'est arrêté là, on s'est arrêté là, on s'est assis.
C'était très bien. Je suis quand même fatiguée. On a marché pendant longtemps.
Une parade qui était organisée par la CAF, donc pour marquer la fin des vacances scolaires, mais aussi pour célébrer les 50 ans d'engagement de l'association et redonner vie au quartier de Rivière-Salée. Isabelle Gogo est responsable de la logistique pour les actions de la CAF.
Donc c'est une journée où l'on continue en tout cas à fêter les 50 ans de la CAF, puisque l'année dernière on a eu 50 ans. 50 ans au service de la jeunesse. Donc il était important pour nous de rassembler en tout cas tous les enfants de nos centres pour qu'ils puissent vivre en tout cas une parade dans le quartier de Rivière-Salée. Pourquoi Rivière-Salée ? Tout simplement c'est parce que les événements du 13 mai ont un peu terni l'image de Rivière-Salée, je dirais. Et l'idée c'était de pouvoir redynamiser en tout cas un peu cette population qui a connu des choses pas terribles ces derniers temps.
Et après cette marche, les enfants ont pu profiter de spectacles organisés par plusieurs associations de quartier. Ils n'ont maintenant plus qu'une semaine pour profiter des vacances en centre aéré avant la rentrée qui aura lieu le 17 février.
À Nouméa, la bibliothèque Bernheim accueille ce soir les Nuits de la Lecture, une manifestation nationale qui invite les lecteurs à venir lire à haute voix des textes de leur choix. Un thème a tout de même été sélectionné. Cette année, il s'agit des patrimoines. C'est un événement gratuit pour les plus de 8 ans. La bibliothèque Bernheim est ouverte depuis 18h et jusqu'à 20h pour accueillir cette manifestation culturelle.
Radio Rythme Bleu, les bonnes fréquences. À Bouraille, c'est le 99.
Et puis on termine ce journal avec un mot de sport et du golf. Ces prochains jours sur le territoire, la Ryder Cup d'Eva 2025 aura lieu dès demain et jusqu'à dimanche à Bouraille. De demain, ce sera les entraînements avant de passer à la compétition samedi et dimanche. Elle mettra donc en compétition les golfeurs sudistes et les golfeurs broussards. Chaque équipe sera composée de 10 hommes et de 10 femmes sélectionnés par les capitaines. Les clubs de Tina et de Dumbéa pour les sudistes auront Laurent Bonnefond et Jean-Benoît Peudetour pour capitaines. Les capitaines des clubs de Deva et de la Wengui pour les broussards seront Laurent Hutt et Jean-Louis Leschène. À 18h10, on termine ce journal avec la météo.
La météo avec la 7. 6 magasins sur l'ensemble du territoire pour vous accompagner dans tous vos projets. La 7, construire, rénover, aménager.
Et la météo, Nicolas, c'est avec vous.
Oui, alors, cette nuit, la côte ouest sera bien étoilée. Ailleurs, les nuages domineront et donneront quelques ondées, en particulier sur la pointe sud, l'est et au Loire-Gloté. En cours de nuit, le vent moulira sur la façade ouest entre 5 et 10 nœuds. Ailleurs, il se maintiendra d'est-sud-est entre 15 et 20 nœuds, localement sur la pointe nord-est entre 20 et 25 nœuds, avec des rafales à 35 nœuds. Les températures minimales seront comprises entre 22 sur l'ouest et 27 degrés sur la pointe nord et Bélep. Demain matin, le soleil sera bien présent sur la façade ouest, des nuages et quelques averses faibles circuleront encore au Loyauté et sur l'est. L'alizée d'est-sud-est s'établira de 15 à 20 nœuds, localement près de la pointe nord entre 20 et 25 nœuds avec des rafales à plus de 30 nœuds. Il sera moins fort sur le nord-ouest en début de matinée entre 10 et 15 nœuds.